Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler du pied bot varus équin. Vous avez peut-être entendu parler de cela ou pas. Eh bien, quelles sont les causes de cette malformation congénitale? Comment s'est fait la prise en charge et quels sont les modes de prévention? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Justin Meda Ngolela. Il est kinésithérapeute au centre de prise en charge du pied bot du programme national de réadaptation à base communautaire. Monsieur Justin Médard, bonjour.
Bonjour, merci le journal.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également Madame Godlive Lopongo Takoy, kinésithérapeute. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Et si tout va bien, on aura également Docteur Safi Machoro, qui est médecin généraliste dans cette émission, où nous allons parler du pied bot. Cette malformation appelée pied bot. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Quelle est l'opportunité d'une école des sciences des populations et des développements? Ce sera le deuxième sujet qui sera développé à partir des 11h05, heure de Kinshasa, avec professeur Jacques Emina, chef des départements des démographies à l'université de Kinshasa. Tati Mapoukoua sur la coordination et la réalisation, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Ravi de vous retrouver dans ce magazine, mesdames et messieurs. Nous allons parler aujourd'hui du pied bot, le pied bot varus équin. Eh bien, le pied bot est l'une des malformations congénitales courantes survenant dans une naissance sur 1000, selon les statistiques. L'enfant aura le pied tordu ou tourné vers l'intérieur et vers le bas. Si elle n'est pas corrigée, cette malformation cause un handicap physique. L'individu atteint ne sait pas marcher correctement sur la plante de pied. Parfois, elle dépend d'une béquille pour se mouvoir. En RDC, des centaines d'enfants naissent avec cette malformation, d'après nos sources. Alors, comment favoriser une détection précoce et une prise en charge adaptée du pied bot en RDC? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler avec nos invités. Monsieur Justin Médard Ngolela est kinésithérapeute au centre de prise en charge de pied bot du programme national des réadaptations à base communautaire. Bonjour.
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 Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a également madame Godlive qui est avec nous. Elle est aussi kinésithérapeute. Ils travaillent ensemble. Alors monsieur Justin, c'est quoi le pied bot varus équin? Bien que j'ai déjà donné quelques descriptions, mais aidez-nous à bien comprendre.
Ok, merci monsieur le journaliste pour la question. En un mot, je peux vous dire que le pied bot équin varus est le pied bot varus équin congénital est une malformation congénitale de nouveau-né caractérisée par quelques éléments très importants, à savoir les cavus qui forment un pied creux au niveau du médio-pied. Il y a un élément qui s'ajoute, c'est l'adductus, c'est-à-dire il y a entre les médio-pieds s'y rapproche vers l'axe du corps.
Bon, là, c'est des termes techniques, nous, on comprend absolument rien. Si vous pouvez utiliser des termes beaucoup plus simples pour permettre à la majorité de la population de comprendre ce que c'est.
Oui, je vais arriver là. D'accord. Je donne d'abord une définition scientifique. Et puis, je vais commencer à expliquer un peu les mots qui forment cette malformation.
Allez-y.
Je disais ceci, les pieds bots étaient une malformation congénitale de nouveau-né caractérisé par les cavus, les varices, l'adductus et l'équinisme. Pour expliquer maintenant ce que je viens de dire, les cavus c'est quoi? Oui. C'est-à-dire, quand l'enfant est né avec un pied bot, entre les médiaux, c'est-à-dire l'avant-pied et les médiaux-pieds, il y a un creux qui est formé au niveau du milieu du pied. Mm. C'est ce qu'on appelle maintenant cavus.
C'est une sorte de cavité qui se forme.
Oui, c'est une cavité qui s'est fait à l'intérieur du pied. C'est ça, c'est qu'on appelle cavus. Mm. Il y a aussi un autre terme, c'est l'adductus. C'est-à-dire, les pieds se rapprochent de l'axe du pied et du corps, pardon. C'est ça ce qu'on appelle varice. Et adductus, pardon. Mmh. Varice, c'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, pour les varices, pardon, quand il y a le talon qui est dévié vers l'intérieur du pied, c'est ça ce qu'on appelle varice. Maintenant, l'échinisme, quand les pieds, quand les pieds entrent avec l'axe du tibia, mmh, et penchés vers les bas, c'est ce qu'on appelle l'échinisme. C'est-à-dire, les pieds n'arrivent pas à toucher le sol, et les talons n'arrivent pas à toucher
le sol.
C'est ça ce qu'on appelle l'échinisme.
Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le pied beau. Madame Godelive, un complément par rapport à cette description?
Ok, juste pour simplifier un peu la définition par rapport à ce que vient de dire de mon chef.
Oui.
C'est un pied qui est dirigé vers l'intérieur et ça pêche à la fin qui va grandir plus tard dans la vie de marquer le pas sur son plan, sa plante des pieds.
La plante des pieds.
Alors, ça donne une mauvaise malformation de ses pieds et ça handicape avec le temps la fin des pieds marcher. Et c'est pourquoi il est appelé pied beau, c'est dirigé vers l'intérieur. Vous allez voir les orteils de l'enfant est dirigé vers l'intérieur au lieu que les pieds soient plantés au sol. Mmh. C'est ce qu'on peut dire. Et avec le temps, quand l'enfant va marcher, vous allez voir que l'enfant ne saura pas poser son talon. Il va marcher sur la pointe des pieds, au bord extérieur de son pied. Voilà ce qu'on peut dire.
Mmh. Il ne pourra pas poser
la plante des pieds au sol.
Oui, à cause de cette malformation.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui cause cela, monsieur Justin Médard?
Oui, pour le moment, la cause vraiment de cette malformation n'est pas connue. Il est inconnu, mais il y a quelques facteurs que nous appelons facteurs favorisants. C'est-à-dire, il y a d'abord mauvaise position du bébé dans le ventre de la mère pendant la grossesse, ce qui peut aussi provoquer cette malformation. Il y a aussi le stress.
Lors de la grossesse.
Ou lors de la grossesse. Il y a aussi un élément que nous pouvons aussi ajouter, l'hérédité. C'est parmi ces éléments-là qui peuvent favoriser aussi la malformation du pied beau. Il y a aussi certaines théories qui sont aussi avancées.
Mm-hmm.
Il y a la théorie des neuromusculaires qui est probablement lorsqu'on fait par exemple un examen au niveau des microscopes qui montre une perte partielle de flux nerveux de certains muscles. La troisième théorie, il y a la théorie vasculaire. Et quand il y a un arrêt circulatoire survenu au début de la vie fœtale de l'artère tibiale antérieure, ça peut aussi causer aussi cette malformation. Ce sont des théories émises, mais en réalité, la cause n'est pas connue.
Elle n'est pas connue. On donne juste quelques facteurs qui peuvent favoriser cela. Mm-hmm. Alors, Madame Godelive, vous voulez ajouter autre chose?
Ok. Alors, d'après ce que le chef venait de dire, il y a d'autres facteurs qui font que quand la femme, puisque c'est bien conseillé, quand la femme est enceinte, elle doit être tranquille, elle doit être bien portante.
Elle ne doit pas être stressée.
Et quand la femme ne se présente pas au début de la grossesse au CPN et quand elle ne prend pas les acides foliques, c'est là où ça cause encore un problème avec le fœtus. Il y a facilité, il y a probabilité que la femme naisse avec une malformation pied beau. Et d'autres choses, il y a que non, quand la femme n'est pas tranquille dans son foyer, quand elle a trop de stress pendant la grossesse, ça peut aussi occasionner cette malformation. C'est ce qu'on peut dire pour le moment. Mais la cause, en réalité, n'est pas connue.
On n'est pas connu. C'est juste des facteurs qui peuvent nous aider à comprendre.
Oui, oui.
Et à quel moment on détecte déjà qu'il y a un problème avec le pied de l'enfant, M. Justin?
La détection est faite juste au niveau de la maternité. Quand l'enfant est né directement à la maternité, la coucheuse doit directement détecter cette malformation et informer aussi à la maman que l'enfant est né avec la malformation, que cette malformation sera prise en charge et le pied reprendra sa forme normale si l'enfant a été pris précocement en charge.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on verra, Madame Godelieve? Quand l'enfant naît, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Quels sont les signes?
Avant d'arriver à l'accouchement, je me rappelle une fois quand on avait organisé la journée internationale des pieds beaux, il y a une maman qui avait témoigné en disant que non, pendant ses peines, quand elle a fait une échographie, il y a le médecin qui lui avait dit que non, madame, vous allez avoir un enfant avec malformation au pied et nous allons voir l'accouchement ce que ça va donner. Et effectivement, quand la dame avait accouché, et la femme avait été porteur de pied beau. Alors, quand il est né, la maman n'était pas trop soucieuse, puisqu'elle savait déjà. Et par rapport à votre question, puisque je suis revenue un peu pour compléter mon chef, par rapport à votre question, quand la femme naît, les accoucheuses qui sont déjà formées, ils savent comment détecter le pied beau. Et à partir de là, il faut information et les gens descendent sur terrain pour s'en occuper.
Donc on voit déjà que le pied de l'enfant n'a pas la forme
normale. Oui, oui.
Et maintenant, comment se fait la prise en charge, M. Justin?
Oui, la prise en charge se fait par la méthode que nous appelons méthode Ponseti. C'est une technique qui permet de prendre ses enfants en charge. Cette technique est pratiquée par des personnes. Il faut commencer d'abord, d'emblée, je peux peut-être commencer à expliquer un peu comment ça se passe. Il faut commencer à consulter d'abord l'enfant, de la tête jusqu'aux pieds, puisqu'il y a certaines aussi malformations qui peuvent aussi survenir en dehors de ce que l'enfant présente comme pied beau. C'est comme ça qu'on commence d'abord à consulter l'enfant, en commençant la tête jusqu'aux pieds. Alors, après l'évaluation, on doit planifier et traiter cet enfant pour ce qu'il présente comme pied beau.
D'accord. Nous avons en ligne Dr Safi Matioro, médecin généraliste. Dr Safi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Dr Matioro Safi, spécialiste en santé publique.
Alors, nous parlons de cette malformation dénommée pied beau. Vous avez certainement eu déjà traité beaucoup de cas. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et nous donner des témoignages sur des cas que vous avez déjà reçus et traités?
Ok. D'emblée, comme je vous suivais bien, sur les facteurs, sur l'étiologie pratiquement, nous devons souligner la déficience en acide folique, qui est un facteur qui commence à être prépondérant dans les cadres. Comme la maman, chaque mois, elle perd du sang, mais elle n'arrive pas à comment récupérer les nutriments perdus. Et les facteurs héréditaires, c'est très important de souligner. Parce que dans notre expérience, nous avons vu beaucoup de cas. Quand, par exemple, un membre de la famille est né avec les pieds beaux, il y a grand risque qu'un enfant de cette famille soit porteur de cette malformation appelée pied beau. Dans notre expérience, nous soignons beaucoup des cas de pied beau parce qu'on peut estimer, non, on n'estime pas, mais ce que nous soignons annuellement en RDC dans le province où nous sommes installés, c'est à peu près 700 cas par an. C'est-à-dire chaque année, le programme national de réadaptation en base communautaire soigne au minimum 700 cas de pied beau dans toute la République où nous sommes implantés. Nous sommes implantés dans 6 provinces. Et cela montre que c'est une malformation courante. Ce n'est pas seulement une malformation de notre pays, mais c'est une malformation qui affecte nos enfants. Et dans la prise en charge, nous avons deux types de prise en charge. Premièrement, ce que nous appelons la prise en charge conservative et ce que nous appelons la prise en charge chirurgicale. La prise en charge conservative, c'est une prise en charge que nous administrons aux enfants de 0 à 2 ans. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des séries de plâtrages hebdomadaires. C'est-à-dire, comme mes prédécesseurs ont parlé, au premier jour, quand l'enfant vient dans notre clinique, nous prenons les cas et nous l'évaluons et nous faisons la première séance de plâtre. Le pied beau est soigné par la manipulation, c'est-à-dire nous bougeons, nous manipulons les pieds et puis nous mettons notre plâtre.
Pour corriger la malformation.
Oui, pour la correction de la malformation. C'est-à-dire, comme le pied est dirigé vers dedans, nous essayons par la manipulation de l'amener vers l'extérieur, vers sa position normale. Et pour l'amener dans la position normale, ça dépend de la sévérité du pied. Mais la moyenne des séances de plâtrage que nous devons faire hebdomadairement, c'est 6 séances de plâtrage. Pour dire, si nous prenons un enfant aujourd'hui, dans le cadre des prises en charge, dans le cadre de la correction du pied, nous allons commencer les séances de plâtrage jusqu'à la 6e semaine. Et après la 6e semaine, nous allons introduire ce que nous appelons la chaussure de correction. Cette chaussure de correction, l'enfant la portera jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est-à-dire, la méthode de prise en charge est divisée en deux tranches. Il y a la phase de manipulation et l'âtrage, et il y a la phase de la chaussure que l'enfant porte jusqu'à l'âge de 4 ans.
Donc cela veut dire que la prise en charge doit se faire très tôt.
Oui. Normalement, la prise en charge doit se faire de la première semaine de la naissance. Comme mes prédécesseurs ont dit, le pied beau est détecté dans les cas, dans les situations où nous avons des bons échographes. Le pied beau est détecté déjà dans l'utérus de la maman. La maman fait savoir déjà en état grosse que l'enfant que je porte, c'est un enfant qui naîtra avec une malformation des pieds beaux. Et déjà là, on commence à la préparer pour sa prise en charge. Et la prise en charge est introduite dès la première semaine de naissance.
Voilà, dès la première semaine de naissance. Madame Godley, vous avez autre chose à ajouter par rapport à cela?
Ok, il y aura toujours quelque chose à ajouter, tel que le docteur venait de dire. Donc, la prise en charge a deux phases. Nous avons la phase de manipulation, comme elle vient de dire, et nous avons la deuxième phase, qui est la phase de porte d'orthèse, que nous appelons aussi la phase de suivi. C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple du dernier, parmi les derniers cas que vous avez eu à traiter? Racontez-nous un peu l'histoire, comment ça s'est passé dans votre centre.
Ok, merci beaucoup pour la question. Le dernier cas que je revois encore devant moi, il y a Chimangagad, qui nous est venu au site après.
Un enfant de quel âge?
Un enfant qui avait pratiquement 8 jours.
Huit jours.
Un garçon, oui. Qui nous est venu au site. Et quand il est arrivé, on est passé pratiquement par la consultation. On va débiller, il faut déshabiller l'enfant, puisqu'il y a des pieds beaux associés aussi. On va déshabiller l'enfant, on fait la consultation. Et nous, pendant notre consultation, nous avons une fiche que nous appelons fiche de Pyrénées. Et sur cette fiche-là, il y a 6 paramètres qui est là à parcourir. Nous avons le premier paramètre, nous avons l'incurvation, nous avons les sillons médians, nous avons la protrusion de la tête d'astragale, nous avons les sillons postérieurs, nous avons l'échinisme et nous avons la protrusion. Donc, la vacuité du talon, plutôt. Et nous évaluons la sévérité, comme le docteur Safi venait de dire, et nous évaluons ça. Quand le pied est sévère, vous allez voir que tous les paramètres que je viens d'énumérer ici, ça va porter la valeur 1.
Et quand, la sévérité veut dire quoi? Les muscles
sont trop, c'est grave, quand dur. La malformation est grave.
Elle est grave.
Là, nous donnons le... Partout, pour tous les paramètres, vous allez voir à la fin de la consultation, donc nous allons voir le score, nous allons donner 6. 6, c'est ce qui veut dire que les pieds beaux de cet enfant est sévère. Et la première manœuvre, nous avons toujours un objectif à chercher. Et quand cet objectif n'est pas vraiment atteint, nous recommençons pour le jeudi qui vient, puisque nous recevons les enfants dans notre site que jeudi. Sur toute l'étendue ici à Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa. Et dans d'autres provinces, il y a des jours où ils reçoivent le mardi, il y a d'autres qui reçoivent le mercredi. Mais ici à Kinshasa, nous recevons les enfants que jeudi, chaque jeudi aussi, nous sommes là à partir de 7h30. Et nous traitons par rapport un cas par cas. Ça dépend de la sévérité du cas. Il y a d'autres qui portent 6 sur 6 il y a d'autres 5,5, il y a d'autres 4,5, et ainsi de suite.
Il semble qu'il y a d'autres enfants qui viennent avec tous les deux pieds.
Oui, il y a des pieds perclus. Bilatérales et il y a les pieds unilatérales. Donc, il y a des enfants qui naissent avec deux pieds problèmes et un pied seulement. Et puis, c'est la consultation est toujours la même et la prise en charge est toujours la même. C'est ça.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne Arsène de Lubumbashi et Odon Arsène qui nous appellent de Dar es Salaam en Tanzanie. Orsène, bonjour.
Bonjour, M. Jody, bonjour aux invités.
On vous écoute.
Merci beaucoup, M. Jody, pour la parole. J'ai des petites questions. J'ai suivi le docteur qui a parlé de la position qu'on donne à la femme à l'hôpital concernant la position que la femme va commencer à dormir pour ne pas et pour que l'enfant ne vienne pas avec les malformations. Alors, il y a des fois, la femme respecte ces conseils-là donnés par les docteurs et pour finir, en donnant naissance, elle donne toujours l'enfant avec les malformations. Cela est dit à quoi le docteur peut nous expliquer. Et la deuxième question, j'ai entendu madame qui a parlé de l'échographie que l'on peut découvrir...
La malformation l'échographie.
Oui. Alors, il arrive parfois que l'échographie aussi nous trompe. Parce qu'à des fois, quand la femme part à l'hôpital et qu'elle passe à l'échographie, vous pouvez avoir le docteur qui lui dit que non, tu vas donner naissance d'une fille, soit d'un garçon. Et au moment de donner naissance, ça va se passer d'une manière contraire. Si l'échographie avait détecté que la femme va donner naissance d'un garçon, au moment de naissance, au moment de mettre au monde la femme, devoir donner naissance à une fille. Si l'échographie avait donné les résultats que la femme doit donner naissance à une fille, et au moment de donner la...
D'accord, on a compris. Merci Arsène. On va accueillir Arsène qui nous appelle depuis Dar es Salaam, en Tanzanie. Bonjour Arsène.
Oui, bonjour, et je remercie encore de m'associer dans notre sujet du jour. Je vais attendre les préambules de l'autre sujet, je suis extrêmement très. Mais il y a des petites questions que je compte poser à notre invité. Une fois, nous avons au moins trois questions. Bon, la première question, bon, je vais attendre notre invité et la doctoresse, si vous voulez, la doctoresse qui vient de dire qu'il y a des causes, ça peut être lié pour quelque chose comme héréditaire. Et elle vient de dire aussi, il y a encore d'autres causes, peut-être, ça peut être un mauvais comportement pour la grossesse. Alors, là où je me focalise uniquement, bon, c'est uniquement pour des causes. Bon, parce que je pose à notre invité des questions de savoir. La première question, est-ce que l'environnement aussi, ça ne peut pas être pour quelque chose comme la cause aussi, parce qu'il arrive à un certain moment, bon, il y a des femmes qui ont des problèmes d'allergie lorsqu'ils ont dans les périodes SS, donc dans les saisons sèches, et elles se déplacent par exemple, elles se déplacent vers des milieux là où il y a trop d'humidité. Bon, autre chose aussi, est-ce que les problèmes là de traumatisme aussi, ça ne peut pas être la cause de ça que nous présentons? J'ai une grande terre au niveau des Beni. Lors des assassinats et lors des tueries, bon, elle avait subi presque de la même manière et pourtant tous ses enfants, elle se comportait convenablement. Bon, autre chose aussi, je viens de voir, pourquoi pas, il n'y a pas quelque chose comme la sensibilisation, parce que souvent, bon, on ne sent pas, il y a trop de sensibilisation dans les milieux ruraux, il y a des femmes qui souffrent, on ne les jamais sensibilise. Bon, parce que nous voyons, il y a les problèmes là de Sorora, par exemple. Quand on voit quelque chose comme l'héréditaire, bon, je suis en train de pressentir, il y a quelque chose comme le logement, quelque chose comme des liens familiaux. Par exemple, le grand frère est décédé et directement son petit frère a pris la femme. Et peut-être ça sera aussi les prolongations de toutes ces histoires-là.
D'accord. Bon, merci. On comprend que on a déjà noté vos questions. Merci Arsène qui nous appelle de Dar es Salaam. Alors, monsieur Justin Médard, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Ok. Je crois très bien. Docteur Safi a essayé d'expliquer tous ces paramètres. Et quand vous prenez, par exemple, l'hérédité, je prends d'abord l'hérédité puisqu'il y a un auditeur qui a insisté sur l'hérédité. Je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai vécu. Nous avons reçu dans notre site un enfant dont son grand-père avait un pied beau. Maintenant, sa maman avait aussi deux pieds qui étaient bilatéraux, pieds beaux. La jeune dame a accouché aussi un enfant qui porte aussi la même malformation. Il y a tant d'exemples. C'est pour cela que j'ai voulu faire voir à notre ami pour dire que quand il y a hérédité, ça peut peut-être venir aussi peut-être dans
l'autre génération.
Dans l'autre génération par rapport à ce que nous avons vécu dans notre site. Il y a d'autres exemples que nous avons aussi vécu avec la formation, avec les images qui se sont passées par exemple ailleurs, en dehors de notre pays. Un enfant qui est né avec pied beau, dont ses parents présentent aussi la même malformation avec les deux pieds. C'est comme ça que je peux peut-être répondre d'abord l'ami là sur l'hérédité.
Bien, docteur Safi, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole, et nous remercions beaucoup nos auditeurs pour l'attention qu'ils apportent au sujet. Et vraiment, comme mon prédécesseur vient d'expliquer, le facteur héréditaire, nous l'avons beaucoup souligné dans notre expérience. Les facteurs environnementaux que l'un de nos auditeurs a souligné, ce ne sont pas les facteurs comme il l'a dit, le facteur comme la pollution et comme les allergènes qui causent des problèmes respiratoires. C'est un autre problème. Les problèmes respiratoires sont différents des problèmes locomoteurs que nous avons du pied beau. Ce qui fait polluer l'environnement et contribuer comme facteur de la malformation du pied beau, c'est par exemple le tabac. Quand la maman est assise à côté de quelqu'un qui fume, il prédispose cette maman à accoucher d'un enfant avec pied beau. Quand la maman elle-même consomme l'alcool pendant qu'elle est grosse et prédispose cet enfant à développer le pied beau. Mais l'environnement comme la poussière, si je peux souligner, ne prédispose pas l'enfant à avoir... Oui, la maman aura des problèmes, c'est un cas qu'il est prédisposé à avoir des allergies comme ça, mais ce sont des allergies respiratoires. Nous félicitons beaucoup cette observation que l'un des auditeurs a souligné que la guerre, les conflits des bénis ont contribué à une dame
le traumatisme.
Un enfant avec la malformation du pied beau. C'est exact, c'est ce que mes prédécesseurs ont souligné. L'estresse, la maman tout au long de sa grossesse, elle était soumise à des stress. Et c'est là vraiment, mon père, ça prédispose la dame à accoucher d'un enfant avec pied beau. Et nous faisons des sensibilisations. Peut-être c'est ce qu'on n'a pas fait et on n'a pas approfondi ça. Mais aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'être ici à la radio Okapi et dans le cadre de la sensibilisation communautaire.
Docteur Safi, pour un parent qui a un enfant avec le pied beau, combien peut coûter la prise en charge?
Pour un enfant qui a un enfant avec pied beau, le standard de la prise en charge, c'est $250 par cas. Mais, dans le cadre de la participation du gouvernement et d'autres partenaires, la prise en charge est réduite à $50 pour les 4 ans.
$50 pour les 4 ans?
Pour les 4 ans.
Mais à part ça, mais il y a des séances, il faut revenir peut-être chaque semaine, on doit masser le pied, etc. Tout ça, ça engage des frais et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses.
C'est une prise en charge en couple, c'est-à-dire le clinicien et le parent. Et il faut qu'il y ait une étroite collaboration et une bonne compréhension. Parce que vous comprenez que c'est une prise en charge qui dure pendant 4 ans. Et ça demande l'activité vraiment des parents. Les parents viennent hebdomadairement, c'est-à-dire chaque semaine, pendant 6 semaines. Après, nous commençons à donner les rendez-vous de une fois le mois. Suivant l'évolution de l'enfant, nous donnerons les rendez-vous de 3 fois de chaque 6 mois jusqu'à ce que nous ayons atteint les 4 ans de prise en charge. Plus il y a bonne amélioration du pied, plus les rendez-vous sont réduits.
Bien. Merci. On va accueillir deux auditeurs, Malonga de Bandundouville et Charles de Lubumbashi. Malonga, bonjour et quelle est votre question par rapport au pied beau?
Bonjour à nos invités et bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Bonjour.
Une question d'abord de curiosité pour vous seuls aujourd'hui. Ici, je suis entouré par mes confrères et mes enfants. Ils sont en train de suivre. Bon, ils me demandent, on appelle pied beau. Mais ce pied beau là, comme tel qu'on l'exprime, c'est comme ici, c'est pied mauvais. Comment on écrit ce pied beau là?
Le pied, comme le pied, P-I-E-D, et puis beau, c'est B-O-T. B-O-T.
Ah,
B-O-T. Ce n'est pas la beauté. Vous pensez sûrement à la beauté. Okay. Non, ça s'écrit B-O-T, pied beau. Voilà.
Ok. Ils suivent, puisqu'ils me demandent ça ici.
D'accord.
Bon, pour évoluer. En tout cas, je dis, il y a des cultures, par exemple, chez nous, Rega, on dit, toute la jeunesse, les vieux sages les interdisent de manger certains animaux, certains poissons, c'est là pour éviter cette malformation de leurs enfants. Et ils disent au Barza que, vous voyez, vous êtes jeunes, bientôt, vous allez mettre au monde. Attention de manger ceci, de faire ceci, faute de ne pas nous produire des enfants qui sont comme des animaux bio-quoi là-bas. Alors, c'est par là où je dis que ça aussi...
Vous voulez savoir si l'alimentation peut aussi contribuer à cette malformation des pieds.
Ok, j'ajoute, les invités viennent d'expliquer là-bas. Mm. Et c'est par là, je veux dire qu'ils nous disent que jusqu'à présent, la cause n'a pas encore connue. Mais suivant leurs explications, pour moi-même, je vois que la cause est déjà connue. Puisqu'ils nous disent, ils nous donnent la façon d'une enfant enceinte, comment est-ce qu'elle peut se comporter. Elle doit suivre la certaine épanda dans la période de la grossesse. Et puis, la façon dont elle peut dormir, cela peut garantir une bonne position de l'enfant dans le fœtus. Alors, c'est ça la cause. Si l'enfant et la femme est au contraire avec ses instructions, je crois qu'elle peut avoir vraiment la chance de nous produire cet enfant-là.
Bien, donc vous revenez sur l'alimentation et puis la position de l'enfant dans le ventre de sa mère. Merci.
La question est celle-ci.
Oui.
Est-ce que ce pied beau peut être héréditaire?
Oui, les invités ont confirmé que ça peut l'hérédité aussi entre en jeu.
Ah bon, donc c'est génétique.
Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Charles, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour aussi au docteur.
On vous écoute.
Oui, d'abord, je remercie beaucoup mon frère Malonga parce que je voulais aussi commencer par sa toute première question là, parce que c'est beau. Ici, on souffrait, on se demandait que c'est une façon de se moquer ou qu'il s'agit de quoi finalement. Alors, comme j'ai déjà la précision, je passe maintenant à la seconde question.
Oui.
Par rapport au milieu rural, là où il n'existe même pas des hôpitaux généraux, comment se fait la prise en charge? Parce que nous constatons que c'est surtout aussi au village où il y a de telles malformations là. Alors, la prise en charge, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut toujours de rendre dans les zones urbaines ou bien les docteurs eux-mêmes vont se rendre là chez eux. Voilà un peu nous voulons voir.
D'accord, merci à Charles de Lubumbashi. Madame Godelive Lopongo, vous avez la parole.
Ok, merci bien. Pour répondre à papa, pour le moment, nous sommes que dans les 6 provinces de la RDC.
Lesquelles?
Et nous sommes ici dans la province de Kinshasa. Nous sommes au Congo central. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kolwezi et Kisangani. C'est là où nous sommes.
Là où il y a le programme national.
Oui, là où il y a les sites de prise en charge.
Ok. Mm-hmm.
Maintenant, si quelqu'un se trouve en dehors, nécessairement ça demande des moyens pour que la personne se déplace vers la province qui est proche de lui. Et c'est pourquoi nous sommes là pour lancer un appel. Si je peux continuer, là c'est un appel aux autorités, aux bonnes de bonne volonté, aux hommes de bonne volonté plutôt, de nous aider, d'aider le programme à aller plus loin dans d'autres provinces pour que tous les enfants puissent bénéficier de cette prise en charge.
Voilà, mais ça coûte cher, parce qu'en entendant docteur Safi tout à l'heure, c'est pas tous les parents n'ont pas ces moyens pour la prise en charge.
Mais c'est pour cela que nous demandons à ce qu'on puisse nous mettre main forte pour que cette prise en charge soit accessible à tous les parents qui ont des enfants porteurs de pieds beaux. Voilà ce que je peux dire pour le moment.
Par exemple, si l'enfant vient à la première séance et après, il faut des suivis. Hein. Chaque semaine, docteur Safi nous l'a dit tout à l'heure, et il faut payer pour ça.
Oui, comme elle avait dit que c'est moyennant $50, mais comme c'est un programme national de réadaptation à base communautaire, nous ne chassons pas les enfants. Nous les accueillons avec le pays qui vient avec et nous commençons les traitements puisque notre objectif, c'est effacer les pieds beaux dans notre pays.
Est-ce qu'il y a déjà eu des cas qui ont été corrigés et puis l'enfant marche normalement sans problème?
Oui, il y a des cas. Si vous descendez sur terrain au site de prise en charge, vous allez à trouver des catégories sont là. Il y a des enfants qui sont à plâtre, il y a des enfants qui sont à la phase des suivis et ils sont là au rendez-vous. Et vous pouvez vérifier, palper des doigts de ce que nous faisons comme prise en charge.
Monsieur Justin, donc ça peut être corrigé.
C'est une pathologie qui est corrigée sans problème avec cette méthode Ponseti. Je crois bien depuis qu'on a commencé ce projet ici, nous avons eu à soigner plus ou moins 5000 enfants. Si vous êtes sur les
terrains... Ici à Kinshasa ou à travers le pays?
Ici à Kinshasa et à travers aussi le pays. Je crois que ma mamie a essayé un peu d'expliquer. Nous sommes ici dans la ville province de Kinshasa avec 5 sites. Il y a un site à Kalembelembe, un site à Mama Koko, un site au Sino-Congolais et un site à Kinkol. En dehors de Kinshasa, elle a déjà presque donné un peu l'information. Nous sommes dans 6 provinces. Quand nous prenons tous les enfants qu'on a eu à soigner, c'est plus de 5000 enfants qu'on a eu déjà à soigner.
Et cette année?
Pas cette année. Oui. Depuis qu'on a eu à commencer un peu ces projets ici, on a soigné plus de 5000 enfants. Il y a ceux-là qui se portent très bien, qui marchent, qui portent aussi des chaussures comme tout enfant.
Et puis, vous avez eu des partenaires qui vous ont soutenu dans ce travail, qui ont soutenu le programme.
Oui, nous avons eu les partenaires qui est si bien, qui nous a aidés depuis qu'on a commencé les projets. À un certain moment, cette année, nous avons eu vraiment des difficultés puisque
le partenaire s'est retiré.
Il ne s'est pas retiré, mais il n'a pas donné un peu les intras pour qu'on puisse un peu prendre ses enfants en charge. C'est comme ça que nous lançons maintenant un appel aux gens de bonne volonté, surtout aux députés et aux hommes d'affaires, voir aussi les policiers et les sénateurs s'il y a possibilité de venir en aide pour ces enfants, pour que ces enfants ne puissent pas avoir un handicap dans leur vie sociale.
Docteur Safi, quels sont les intrants dont vous avez besoin pour continuer à assurer une bonne prise en charge?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les intrants dont nous avons besoin pour assurer une bonne prise en charge, nous avons besoin des plâtres, nous avons besoin des watts, nous avons besoin des seringues de 2 millilitres. Nous avons besoin de lidocaïne. Nous avons besoin de bétadine. Nous avons besoin des compresses. Nous avons besoin des bistouris pour assurer une bonne prise en charge. Et les bistouris, nous avons deux types. Les bistouris numéro...
Est-ce que tous les cas, vous êtes obligé d'opérer pour tous les cas qui arrivent ou bien vous appréciez?
Nous avons nos normes parce que nous suivons les normes internationales pour la prise en charge du pied beau. Ce sont pas seulement les normes inventées en RDC. Et nos normes nous soumettent à 90% de nos cas. Doivent passer par une petite chirurgie que nous appelons la ténotomie. C'est-à-dire si nous avons 100 cas, 90 cas doivent passer par cette petite chirurgie que nous appelons la ténotomie, et 10% peuvent échapper. C'est-à-dire, ça dépend de l'évaluation que nous avons faite.
Donc, vous avez besoin des bistouris et autres.
Oui, nous avons besoin des bistouris et autres. Bien. Et aussi, comme j'avais souligné bien avant, la prise en charge est conservative et chirurgicale. Qu'en est-il pour les enfants qui sont au-delà de 2 ans? Parce que la prise en charge que nous appelons la méthode Ponseti, c'est pour les enfants de 0 à 2 ans. Pour les enfants de au-delà de 2 ans, nous faisons la chirurgie. Et la chirurgie, pour ces cas, ça demande tout ce qui est intra du bloc opératoire. Des compresses, de bétadine, des produits anesthésiques, des antibiotiques, tout ce qui consiste pour faire une bonne chirurgie pour les enfants plus âgés que 2 ans.
Est-ce que les personnes âgées, on peut corriger aussi ou c'est tard, c'est irréversible?
Ok, nous ne pouvons pas dire que c'est irréversible parce que la malformation du pied bot, c'est une malformation corrigeable. D'où ce qui nous donne plus la joie. Mmh. Une fois on soumet la personne sous traitement, nécessairement le pied sera corrigé. Nous corrigeons plus les adultes jusqu'à l'âge de 20 ans. Parce que au-delà des 20 ans, nous pouvons entamer la prise en charge. Mais souvent, c'est associé à des complications. Et ça dépend aussi comment les pieds a été durs. Parce que vous savez, plus la personne marche avec le pied au-dedans, les os se mettent dans une mauvaise position. Oui. Et les pieds deviennent de plus en plus durs. Voilà la situation.
La situation. On va accueillir rapidement des auditeurs. Voilà. Le programme est en difficulté. Il n'y a plus assez de moyens pour acheter tout ce qu'il faut et prendre en charge des enfants. Et bon nombre d'enfants viennent des milieux aussi défavorisés. Les parents n'ont pas assez de moyens. S'il y a des personnes de bonne volonté qui nous écoutent, peuvent assister à ce programme pour continuer la mise à prendre en charge ces enfants. On va accueillir Pierrot de Lumbashi et David de Kalemi. Pierrot, bonjour.
Invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. C'est Pierron Pagnan, j'interviens depuis la ville de Lubumbashi.
Quelle est votre question?
Merci. Personnellement, j'ai 3 questions que j'aimerais poser aux invités. La première question va d'abord de la définition de la maladie. Nous appelons pied bot ou varice équin. Alors, pourquoi la maladie s'appelle varice équin alors que on parle de du nom varice lorsque la plante du pied est tournée vers l'intérieur? Mais lorsque la plante de pied est tournée vers l'extérieur, ça ne s'appelle pas varice mais s'appelle valgus. Alors, mais pourquoi on préfère seulement appeler varice équin au lieu de combiner les deux?
D'accord. Alors, la deuxième question?
C'est la première question.
Allez, passez à la deuxième.
La deuxième question était de savoir comment il y a deux types ou des formes de varice équin dont il y a neurologique et non neurologique. Et pour passer à la chirurgie qu'on a fait à lésion par le docteur maintenant, il faut d'abord savoir identifier et comment faire identifier les deux formes parce que la forme neurologique est plus évitable pendant la chirurgie. Et la troisième pour chuter, quand est-ce qu'on peut recourir au kiné pendant cette maladie?
D'accord.
Et préconise le programme national pour éviter cette maladie pendant la grossesse parce que nous devons insister sur cette maladie pendant la grossesse et pendant
merci, Pierrot. D'accord, merci. Merci Pierrot de Lumbashi. David, vous êtes à Kalemi. Rapidement, quelle est votre question?
Merci, je dis Daniel Kachama. Je salue aussi les auditeurs.
Quelle est votre question?
Et un auditeur de Lubumbashi, lui de la Tanzanie, l'a posé une question concernant l'échographie. Alors, je n'ai pas bien entendu la réponse de l'invité.
Ah, sur l'échographie qui parfois... Oui.
Moi, ma question, j'ai juste une question de savoir. Moi, la fois passée, j'étais parti à l'hôpital avec ma femme. L'échographie nous a dit qu'elle va donner naissance à un enfant fille. Alors, arrivé le jour de la naissance, elle a donné naissance aux jumeaux. Parmi les jumeaux, il y a l'un qui est handicap, qui est de la déformation des pieds, et l'autre se promène bien. Alors, c'est suite à ça que j'aimerais savoir à l'invité, c'était quel phénomène. Merci pour l'invite.
Merci. D'accord, docteur Safi.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole.
D'accord, allez-y.
Et puis, on y va directement. Comme Et la question d'échographie demeurait pendante. Je crois que c'est bon de la répondre. Chacun connaît là où se situe l'appareil génital de la personne. Ça se situe au milieu des deux membres. Et ça peut causer un peu de difficulté pour l'échographe peut-être de bien voir. Et ça dépend aussi
de la position du fœtus.
Oui, et de l'état de la période de la grossesse. Oui. Plus la grossesse est jeune, plus il y a des confusions. Je crois que les autres, vous pouvez les témoigner là-bas. Plus l'enfant est mature, plus ça devient plus facile pour l'échographe de détecter si c'est une fille ou c'est un garçon. Mais dans le cadre du pied beau, les pieds beaux, nous connaissons où les pieds est. Les pieds est pratiquement visible. Et ça peut être plus facile pour l'échographe de mieux voir les pieds et détecter la malformation du pied beau que voir si le genre du fœtus. Pour la question que la dame avait couché d'un enfant pied beau, le cas des jumeaux, d'un enfant pied beau et un enfant qui a les pieds sains. Vraiment, ça, ce sont des cas que nous vivons aussi au niveau de notre expérience que nous avons. Pourquoi? Quand il y a deux enfants dans l'utérus de la femme, ils n'ont pas assez d'espace pour bien se mouvoir et bien faire le mouvement. Il y a l'un qui sera handicapé dans ses mouvements. Et quand il reste longtemps avec un pied qui est courbé pendant longtemps, ça envoie un message au niveau du cerveau que le pied est comme ça et l'enfant finit par naître avec un
avec
pied
cette malformation là.
La cause est qu'il n'y avait pas eu assez d'espace dans l'utérus de la femme pour que les deux enfants puissent se mouvoir librement.
Maintenant, comment prévenir les pieds beaux? Comment le prévenir, monsieur Justin Médard?
Je crois docteur Safi a essayé un peu d'expliquer tout ça avant. Quand les femmes se présentent, par exemple, au niveau des CPS, les femmes sont obligées de prendre l'acide folique qui aide souvent à ce que les femmes ne puissent pas avoir les enfants avec malformation.
D'accord. Madame Godelive,
oui.
Vous avez autre chose à ajouter par rapport à ça? La okay. prévention, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir?
Pour prévenir, nous allons revoir encore nos facteurs favorisants. Oui. C'est ce qu'il faut vraiment éviter. Par exemple, quand nous parlons de l'hérédité, il faut veiller de près au niveau de l'échographie. Puisqu'il y a la majorité de nos femmes, de nos mamans, qui vont à l'échographie pour connaître juste le sexe de la femme.
Et mais c'est
pas
tout.
Pour pas, savoir pas pour autre au-delà. Chose. Oui. Et l'échographe aussi en profite. Il y a des échographes qui, par exemple, il se dit « je me réserve ». Comme la personne n'est pas
intéressée,
profane, il n'est pas intéressé, oui. Il vous dit, il vous donne des confusions et puis vous allez avec, comme on vient de suivre le cas de jumeaux là. Et puis, deuxièmement, la femme doit être dans un milieu calme.
Elle ne doit pas être stressée.
Elle ne doit pas être stressée. La femme doit être aimée de son mari. La femme doit être aimée dans son entourage et dans la belle famille, ainsi de suite, dans son travail là où elle est. Et deuxièmement, troisièmement, comme le chef venait de dire, la femme doit suivre ses peines dès le premier mois de sa grossesse. Il ne faut pas attendre que la grossesse soit au niveau du deuxième trimestre et vous allez juste pour faire quelques semaines, quelques séances de ses peines et puis attendre l'accouchement. Non, il faut suivre ses peines dès le premier mois de la grossesse. C'est ce que nous disons le premier trimestre, puisque si vous voyez notre fiche, il y a des questions que nous posons aux femmes. Quand est-ce que vous avez commencé votre ses peines? Voilà. Et puis, la femme doit aussi veiller à ne pas prendre de l'alcool, à ne pas fumer pour éviter tout ça. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Si docteur Safi a quelque chose
docteur
à ajouter.
Docteur Safi.
Oui, merci beaucoup mes prédécesseurs pour l'éclairage, les mesures de prévention des pieds beaux. La prévention des pieds beaux commence quand la femme entre dans son âge de procréation. Okay. C'est quand la prévention du pied beau commence. Ça commence, comment prévenir alors en cet âge? C'est-à-dire, la femme doit avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. pour essayer d'avoir une quantité, si je peux dire, suffisante de l'acide folique dans son corps. Mmh. Quand la femme perd son sang mensuellement, il perd comme les nutriments, comme j'avais expliqué avant, et l'acide folique part. Alors, il porte la grossesse pendant qu'il est à déficit de certains nutriments. Il est prédisposé à ça. Pour dire, pendant l'âge de procréation, la femme doit veiller à une alimentation équilibrée et diversifiée.
Docteur Safi,
il y a des précautions
est...
à prendre.
D'accord.
Il y a des précautions à prendre pendant la période prénuptiale. Quand la fille se prépare à son mariage, il doit commencer à prendre l'acide folique pour essayer de prévenir cette malformation du tube néral. Et la prévention proprement dite, quand l'enfant est déjà né, c'est la prise en charge précoce.
D'accord. Docteur, on va bientôt terminer cet entretien. Nous retenons que vous faites un grand travail et la prise en charge d'un PIEBO dure 4 ans, si je comprends bien. C'est pendant 4 ans et le programme n'a plus assez de moyens. Il y avait un partenaire qui finançait, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous avez un message à lancer à toutes les personnes de bonne volonté. Quel est votre message, docteur Safi?
Ok. Chers tous, joignons nos mains ensemble pour lutter contre cette malformation du PIEBO. Parce que la conséquence néfaste, c'est de faire nos enfants des handicapés à vie. Nous appelons tout le monde de bonne volonté de joindre la main, la patte, en nous donnant les plâtres, le watt et tout ce qui peut contribuer à la prise en charge de ces enfants. Parce que le personnel qualifié et formé dans la prise en charge de cette malformation sont disponibles à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kisangani, au Bandundu et partout ailleurs.
Monsieur Justin Médard, si quelqu'un, une personne de bonne volonté veut vous assister, comment le faire?
Bon, nous donnons d'abord les numéros et les liens des sites. C'est Avenue Kalembelembe, le centre orthopédique d'appareillage de Kalembelembe. C'était ici à Kinshasa. Mm. Et je peux aussi donner les numéros pour les sites de Kalembelembe.
Mais donnez un numéro s'il y a un numéro.
C'est 085 072 076.
Voilà, ça c'est le numéro du centre de prise en charge des Kalembelembe ici à Kinshasa. Mm. Donc pour toute personne de bonne volonté peut appeler à ces numéros ou se rendre carrément sur place.
Bien sûr, nous avons ici à Kinshasa, nous avons 5 sites, mais j'ai donné juste les numéros d'un seul site. Mm. Si peut-être les gens de bonne volonté qui peuvent aussi nous assister peuvent avoir ces numéros ou bien peuvent descendre sur le terrain sur l'avenue Kalembelembe 183 dans l'enceinte de du centre orthopédique de Kalembelembe. C'est dans la commune de Lingual.
D'accord. Madame Godelive, avant de terminer, vous avez quelque chose à dire?
Ok. Comme venaient de dire mes collaborateurs, nous avons besoin d'aide pour ceux qui sont disposés à nous aider. Nous les attendons avec beaucoup de patience, qu'ils passent et qu'ils n'attendent pas longtemps, car ces enfants ont besoin de l'aide pour qu'ils soient considérés dans la société.
Il y a beaucoup de parents qui viennent et qui n'ont pas de moyens.
Bon, ils sont là, mais on chasse personne, comme je l'avais dit. D'accord. Nous recevons tout le monde.
Tout le monde, oui.
Ok, merci.
Merci beaucoup, Madame Godelive, kinésithérapeute. Monsieur Justin Médard, merci. Et Docteur Safi, nous vous disons également merci.
Merci.
D'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette malformation congénitale appelée PIEBO, le PIEBO varus écaille.